Chapitre 10. Le secret évident. L'esprit est un bon ennemi pour celui qui ne le maîtrise pas. L'esprit est le meilleur ami de celui qui le maîtrise. Bhagavad Gita. Entrant dans la grotte sacrée, Bhagavan marcha longtemps dans ses labyrinthes, passant de passages à de vastes salles, de celles-ci à d'étroites crevasses où l'on pouvait à peine se faufiler. Il nagea à travers des lacs souterrains, nagea dans le courant rapide de ruisseaux souterrains, où il fallait parfois retenir son souffle pendant 2 à 3 minutes pour franchir un endroit étroit, où le ruisseau remplissait entièrement l'espace d'eau, ne laissant aucune place à l'air. Marcha dans l'espace parsemé de minces et énormes stalactites et stalagmites. Une force inconnue le conduisit encore et encore, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une immense salle du labyrinthe souterrain, toute couverte de cristaux de roche qui brillaient dans les rayons d'une lampe mystérieuse, comme une grande lampe de néon, animée par une énergie inconnue. C'est là qu'il fut accueilli par El Moria, le grand hiérarque du cercle des prêtres de Kailash. Il portait une robe blanche qui lui arrivait aux talons et un turban blanc sur la tête.
« Te voilà, mon frère !»
dit-il en saluant Bhagavan.
« Il n'est pas facile d'atteindre le sommet spirituel. Tout le monde n'est pas prêt à croire qu'il existe un sommet. Tu es ici, dans les trans Himalaya, le cœur spirituel de notre planète. Viens, Rigdenjapo t'attend. »
Et El Moria conduisit Bhagavan dans une immense salle où se trouvait une élévation en forme de pyramide où le trône du seigneur du cercle des prêtres de Kailash mesurait 15 mètres de haut. Il était assis dessus et portait une couronne d'or à 12 rayons qui scintillaient de pierres précieuses. Il était vêtu d'une robe pourpre. Son visage exprimait une sagesse détachée. Sur chaque marche de la pyramide de Rigdenjapo se tenaient 2 adeptes du cercle des prêtres de Kailash, l'un à droite et l'autre à gauche. Tenant de grands cristaux lumineux dans ses mains, Bhagavan s'approcha de la pyramide, s'agenouilla et, s'inclinant jusqu'au sol, exprima sa profonde révérence pour le seigneur du cercle des prêtres de Kailash.
« Tu es venu, mon fils ?»
dit Rigdenjapo d'une voix tonitruante qui se répercuta sur les murs de la salle.
« Accepte dans ton cœur le grand savoir des prêtres du cercle de Kailash. En des temps très anciens, alors qu'un nouvel être planétaire, la Terre, venait d'être formé et que la nouvelle s'était répandue dans tous les coins de notre univers. » Dieu envoya sur cette planète des êtres anciens qui habitaient bien plus près du centre de la galaxie, là où il y a plus de vie, d'amour et de conscience qu'ici, afin de la rendre habitable et d'accélérer le chemin de l'évolution ici, en ce point reculé de l'univers. Ces grands êtres, qui apparurent les premiers dans cette galaxie, sont les plantes mouvantes, de petits hommes terrestres qui se nourrissent de lumière et d'eau. Ils sont venus ici et ont créé la vie sur Terre en la peuplant de plantes. Puis, ils se sont envolés pendant de nombreuses années. « Lorsque la vie végétale s'est développée, »
poursuit Rigdenjapo, après des millions d'années,
« Dieu envoya d'autres créatures, plus proches des insectes, pour peupler la terre d'insectes. Puis des créatures sont venues le peupler la terre de poissons, d'amphibiens et de reptiles. Enfin, des créatures comme nous sont arrivées et ont peuplé la terre d'animaux. Il y a donc 4 chaînes d'évolution sur Terre. Il s'agit des plantes qui, à la fin de leur évolution, deviennent des petits hommes terrestres. Des insectes qui, à la fin de leur évolution, deviennent des petits hommes elfes, des animaux à sang-froid qui, à la fin de leur évolution, deviennent des dragons intelligents et des mammifères qui deviennent des êtres humains. À l'origine, vivaient également sur Terre des esprits du règne minéral, dont les corps physiques sont les montagnes, les fleuves, les mers, les nuages, les pierres et le feu. Eux aussi sont sur la voie du développement et de l'évolution. Ainsi, lorsque le moment arriva de transformer les mammifères à l'évolution la plus rapide, les extraterrestres, qui ressemblaient à des humains, dotèrent donc de leurs gènes certaines des espèces animales les plus développées par le biais de croisements. C'est ainsi que sont apparus les animaux intelligents, les premiers humains. Ils étaient de différentes sortes, des géants et des nains. Et comme nous,
dit Rigdenjapo, et Bhagavan écouta avec étonnement ces paroles résonner dans la vaste salle souterraine des Trans-Himalayas.
Les extraterrestres leur avaient appris à utiliser le feu, l'arc et le couteau de pierre, à façonner les peaux, à fabriquer des huttes et des pièges pour les bêtes. Lorsque l'homme intelligent se fut bien développé et répandu sur toute la Terre, ils revinrent et procèdent de nouveau à des croisements, dotant les humains de leur patrimoine génétique, de sorte que l'homme intelligent devint un homme spirituellement évolué. La Bible l'affirme même dans le 6e chapitre du livre de la Genèse, « Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la Terre et qu'il leur naquit des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes, selon leur bon plaisir. » Et le Seigneur, Dieu, dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme parce qu'il est de chair, que ses jours soient donc de 120 ans. » En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Et après cela, quand les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles se leur donnèrent d'hommes des enfants, ils furent d'hommes des hommes se puissants comme il y en avait autrefois, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la corruption des hommes était grande sur la terre et que leurs pensées et celles de leur cœur étaient mauvaises à tous les instants. Le Seigneur se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre et il fut attristé dans son cœur. Le Seigneur dit « J'exterminerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me suis repenti de les avoir créés. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ainsi, la Bible dit que quelque temps après ce croisement, lorsqu'ils commencèrent à engendrer l'homme spirituel à partir de l'homme intelligent, les extraterrestres construisirent à cet effet des temples et des autels, des observatoires astronomiques et des statues de Dieu, qui sont encore conservées aujourd'hui, ils enseignèrent la religion aux hommes. Mais comme le dit la Bible, Dieu se repentit et décida de les exterminer. Elle dit que l'aspiration spirituelle n'avait pas été inculquée à tous les peuples. Ceux qui ne l'avaient même pas furent exterminés par des inondations, des incendies et d'autres moyens. Parmi eux, il y avait des géants et des nains. Comme le dit la Bible, il ne resta que Noé et sa famille, c'est-à-dire que seules les personnes spirituelles, capables de se développer, subsistèrent. Elles peuplèrent la terre par la suite. Après cela, les extraterrestres quittèrent la planète et commencèrent à observer le développement de l'humanité de l'extérieur afin de mieux étudier le cerveau et le corps du nouvel être humain et la possibilité d'une croissance spirituelle dans un tel corps et avec un tel cerveau. Certains extraterrestres s'incarnèrent dans des corps humains. Sur Terre, il s'agit de Krishna, Bouddha, du Christ, Zarathoustra, Mahomet et de nombreux autres grands maîtres religieux de l'humanité qui ont montré qu'il était possible de se développer dans le corps physique de l'homme et que l'autoréalisation spirituelle était possible avec le cerveau humain. Ils ont également guidé le développement des humains. Un centre unique de régulation de l'évolution spirituelle de la Terre, le Cercle des Prêtres de Kailash, qui influence télépathiquement l'évolution de l'humanité, fut également créé. Mais aujourd'hui, l'histoire de la Terre est à un tournant décisif. La plupart des gens n'ont pas suivi le chemin de la perfection et ont amené la planète au seuil de la destruction. Les forces spirituelles des gens sont encore faibles pour résister à l'imperfection de la majorité. C'est pourquoi, dans un avenir proche, des extraterrestres apparaîtront à nouveau sur la Terre, et toutes les personnes spirituellement non développées qui font le mal seront exterminées, et il ne restera que des individus en développement spirituel pour lesquels viendra le temps du royaume millénaire du bien, où il n'y aura plus de mal, plus de violence, plus de maladies, plus de guerre, et plus de travail dur et épuisant. Lorsque les gens, sous la direction des prêtres du cercle de Kailash et des extraterrestres, atteindront un nouveau stade d'évolution. Il s'agit de la seconde venue du Christ dont il est question dans l'Évangile. C'est l'âge d'or que les croyants de tous les temps et de toutes les nations attendent. C'est l'Armageddon, la bataille des forces de la lumière et des ténèbres. Le mal n'existe pas, mais existe l'imperfection, l'ignorance, qui est aussi dangereuse que ce que vous appelez le mal.
Déclara Rigden Japo en concluant son discours. Bhagavan s'inclina devant lui, le remerciant pour ses grandes connaissances. Les adeptes présents sur les marches du trône chantèrent le mantra Om, louant le pouvoir divin pour sa sagesse et sa connaissance. Le seigneur du cercle des prêtres de Kailash se leva de son trône et, étendant les mains, bénit Bhagavan pour apporter la grande connaissance à l'humanité. Des paumes de ses mains, des rayons de grâce dorée se déversèrent sur la tête du nouveau sauveur de l'humanité.
« Lève-toi pour accomplir de vraies actions !»
dit Rigden Japo. Bhagavan se leva et, gardant un silence respectueux, suivit El Moria dans une autre salle de la cité souterraine des Trans-Himalayas. Au centre de cette salle circulaire se trouvait une énorme boule de cristal de roche, et près de ses murs se trouvaient des bancs pour les hiérarques du cercle des prêtres de Kailash, qui s'asseyaient autour de cette sphère, regardant intensément quelque chose qui n'était visible que pour eux. Sur la surface lisse et convexe du cristal, leur visage noble et intelligent exprimait la compassion et la détermination à aider tout le monde. Les voûtes de la salle étaient en forme de dôme et s'élevaient sur 50 mètres. Tout en haut, un cristal brillant émettait une lumière qui éclairait toute la salle. En regardant les personnes présentes, Bhagavan reconnut Saint-Germain, Kutumi, Mahachohan, Bouddha, le Christ, Zarathoustra, Krishna, Mahomet et beaucoup d'autres grands hiérarques du cercle des prêtres de Kailash. Avec El Moria, ils prirent place devant l'immense sphère de cristal. L'heure de la méditation universelle avait sonné. Les hiérarques se concentrèrent sur la sphère de cristal et, à travers elle, ils transmirent leur aide et leur soutien à toutes les personnes spirituelles de la Terre, leur envoyant de bonnes pensées et un état de grâce. Sur la surface de la sphère, les visages des disciples flottaient, clignotaient, appelant à l'aide les forces spirituelles du cosmos, le cercle des prêtres de Kailash et tous les hiérarques avec toute la puissance de leur volonté, de leur amour et de leur savoir, essayer d'aider ces malheureux êtres en quête qui les appelaient à l'aide sur leur chemin spirituel. Et chacun reçut de l'aide, la santé, l'harmonie dans la famille, au travail, l'ouverture des forces et des capacités à recevoir la connaissance en fonction de sa foi et de son ouverture aux forces de la lumière, en fonction de ses bonnes pensées et de ses bonnes actions, accomplies par lui pour le cercle des prêtres de Kailash et pour le salut de l'humanité perdue dans l'ignorance. Après 2 heures de méditation, les hiérarques levèrent les mains vers le ciel, recevant une nouvelle énergie cosmique pour remplacer celle qu'ils avaient dépensée pour le salut de l'humanité.
L'homme de la Terre n'a pas complètement maîtrisé son esprit,
dit Mahachohan en s'adressant à Bhagavan.
Aujourd'hui, l'esprit de nombreuses personnes ne fonctionne qu'en tant que mémoire, stockant les expériences et programmations de la société et des parents, et en tant qu'imagination, qui crée parfois des monstres étranges, gonflant les instincts animaux, la colère, la peur et la passion, dans des proportions incroyables. C'est l'origine de tous les vices et péchés de l'homme, d'où sa jalousie et sa cupidité démesurée, son égoïsme, son désir de détruire et de faire disparaître tout ce qui ne correspond pas à ses idées. C'est de cette imagination que naissent les guerres et les révolutions. Elle allume les feux des inquisitions et brandit les épées du djihad et des croisades. La pensée logique constructive n'en est qu'à ses débuts chez de nombreuses personnes. Elle est l'apanage d'un petit nombre. Encore plus rares sont ceux qui ont une vision intuitive, la fonction mentale la plus élevée. Pour développer l'esprit des hommes, toi, notre frère Bhagavan, tu dois leur enseigner Dharana, poursuivit Mahachohan. La concentration de l'attention sur des objets spirituels, qui peuvent être des mantras, des incantations magiques, des prières, des yantras, des images de spirituels, des icônes et des chakras, les centres spirituels de l'homme. L'homme doit apprendre à ne pas donner le pouvoir à son imagination, à ne pas s'immerger dans des mémoires qui lui ont été données par des ignorants. Il doit être capable de concentrer son attention pendant de longues périodes. C'est ce qui l'aidera à maîtriser son esprit et à développer de grands pouvoirs et de grandes capacités. Il doit prendre conscience du terrible pouvoir de la mémoire et de l'imagination sur lui. Ce sont les paramètres de la mémoire qui l'empêchent de sortir de l'ornière vicieuse créée par ses parents et la société, tandis que son imagination est exploitée par les instincts, les politiciens, les prêtres, les publicitaires, qui, par le biais des livres, des journaux, de la radio et de la télévision, contrôlent l'imagination, lui faisant faire uniquement ce qui était rentable pour eux, et nuisible et inutile pour l'homme lui-même. Toute personne marchant sur le chemin de l'autodéveloppement spirituel devrait se réaliser qu'elles ont été transformées en zombies et devrait se débarrasser de l'influence des parents, de la société, des politiciens, des prêtres pour se défaire de ces entraves invisibles tissées à partir de compulsions et d'illusions, déclara Mahachohan. Les hiérarques acquiescèrent, exprimant leur accord de leur visage plein de compassion et de sagesse.
Où les gens devraient-ils commencer à pratiquer Dharana ?
Demanda Bhagavan.
Il est préférable de commencer par compter ses respirations,
dit Kutumi,
en se rappelant que chaque respiration glorifie le Seigneur, car la respiration est toujours avec la personne, et à n'importe quel moment, elle peut la sentir et la compter. Ensuite, un adepte des enseignements du cercle des prêtres de Kailash devrait se concentrer sur le mantra Ahashambhuitahahum, en le prononçant avec la plus grande force, confiance et intégrité, de tout son être, en contemplant ou en visualisant l'image du Maître, en sentant le flux de la puissance divine et de la grâce s'écouler de lui à leur cœur. En faisant cette pratique, il développera en lui un pouvoir inconnu à l'aide duquel les extraterrestres construisaient autrefois des pyramides et des constructions gigantesques, transportant d'énormes blocs de pierre dans les airs par la force de leurs pensées concentrées, matérialisant des statues de dieux d'une taille et d'un poids colossaux. Puisse cette connaissance être accordée à l'humanité ? Kutumi termina son discours.
Bhagavan leva les mains, se concentra sur elle et une flamme jaillit entre ses paumes. De la fumée d'encens s'en échappa, puis des fleurs commencèrent à se répandre dans la grande salle, répandant leurs pétales sur les grands hiérarques.
« Que le pouvoir de Dharana soit accordé aux disciples dignes de ce nom, »
dit-il, et tous les hiérarques dirent unanimement.
« Qu'il en soit ainsi, homme !»«
Peu seront parmi les élus, »
dit le Christ.
« Les autres s'incarneront sur les planètes inférieures, où ils revivront sous la forme d'hommes des cavernes, du niveau desquels ils ne se sont jamais élevés jusqu'à la spiritualité. Et les Hitler et les Stalin... » ils se rencontreront. On l'abreuvoir se pourchassant à coups de massue. Des milliers d'années s'écouleront avant qu'il ne s'élève au niveau des personnes en développement spirituel. Tous les hommes spirituels du 21e siècle vivront dans le nouveau monde spirituel qui naîtra sur notre terre. En vérité, je vous dis que la génération actuelle verra le royaume des cieux ici, et de plus en plus de gens doivent être sauvés. Le royaume des cieux, que ceux qui en sont dignes le reçoivent.
Les hiérarques lui répondirent par un Aum unanime.
Souhaitez-vous en savoir plus? Regardez le chef-d'œuvre animé qui révèle les mystères d'humanité. Découvrez plus de connaissances sacrées dans les livres. Vous pouvez rencontrer les personnages principaux des livres lors de nos séminaires. Trouvez votre amulette de puissance. Participez à un rituel individuel. Ouvrez la chaîne gratuite avec des pratiques spirituelles quotidiennes pour vous-même. Vous trouverez tout cela sur notre site web www.amazon1.org. Partagez ce livre et répandez la grande connaissance. La vie des gens changera pour le mieux, ainsi vous accumulerez du bon karma et serez en mesure d'aider tous vos proches.